mardi soir dernier à propos des enlèvements par des supposés extraterrestres, le phénomène dit des abductions. Notre invitée, Marie-Thérèse Dobros, grand reporter à Paris Match, est l'auteur d'un bouquin paru chez Plon, Enquête sur les enlèvements extraterrestres, republié plus récemment chez J'ai lu. La première partie de cette rediffusion a eu lieu hier vendredi, hier après-midi. Deuxième partie donc aujourd'hui jusqu'à 17h30. Et la troisième et dernière partie, demain dimanche, de 15h à 16h. À présent, nous sommes dans la phase où Marie-Thérèse Dobros dialogue avec les auditeurs.
Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir. Mais écoutez, j'ai hésité avant d'appeler. Dire, c'est assez. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai encore du mal à y croire, mais c'est tellement. Il y a tellement d'analogies avec ce que vous dites que je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas pu. Bon, c'est un rêve en fait. Hein. Moi, je l'identifie comme un rêve.
Très souvent, ça paraît comme un rêve.
Oui, ouais. Alors là, c'était mon dernier qui maintenant a. À 19 ans, à l'époque il était tout bébé, il avait 2 ans à peu près, pas tout à fait 2 ans. Et donc, c'était la nuit. Ah non, il avait été un peu plus vieux, il avait 3 ans et demi, voilà. Oui, quelque chose comme ça, enfin bref. Et la nuit, je fais le rêve suivant. C'est pour ça que je suis un peu stupéfaite, parce que ça ressemble vraiment étrangement. Enfin, j'ai du mal à y croire, franchement, mais bon, je vous raconte quand même. Je fais le rêve tout simplement que je suis emmenée quelque part où je peux pas vous dire. Et je ne vois pas grand chose si ce n'est qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Pareil, alors là il y a la table et je vous assure que je n'ai pas de littérature qui aurait pu m'influencer parce que
ça me plaît beaucoup. Si vous n'avez rien lu, c'est ce qui est
non,
maintenant
parce
c'est que le dossier est pollué parce que l'information circule.
Je ne suis pas une fan de cette littérature, je suis curieuse comme tout le monde mais sans plus quoi.
Ouais.
D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un de vos livres quand même pour me faire une idée quand même.
Écoutez, ça s'appelle Enquête sur les enlèvements extraterrestres et c'est paru, ça vous ruinera pas, en édition J'ai lu.
Oui, mais alors il vaudrait mieux, si je peux me permettre, que Marie-Jeanne témoigne à l'oreille de Marie-Thérèse Dobros avant de lire son bouquin.
Oui, c'est pour ça que je tiens à ce que vous me donniez un petit peu votre témoignage avant.
Voilà,
hein.
Vous pensez ce que vous voudrez. Moi, je vous le livre comme ça, tel que.
Là, je suis pas là pour
alors,
penser.
Alors, bon, donc, c'est tout bête. Ça ressemble terriblement à votre histoire. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Bon, enfin, bref, je dormais et subitement, je me suis retrouvée dans un espèce de... Oui, on peut dire... je sais pas comment le qualifier. Bon, il y avait des... J'étais sur une table, effectivement. C'est pour ça
et qu'est-ce qu'on vous faisait?
Je trouve ça presque drôle.
Vous êtes anonyme à la radio. Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, écoutez, il y avait des gens autour de moi. Ah, ça, je pourrais pas les décrire. Hein, incapable
ça
de décrire.
Ça ne fait rien.
Je sais qu'il y avait des gens. Et à un moment donné, au niveau du nombril... Il me pose comme un espèce de comme un tuyau, je ne sais quoi, quelque chose qui ressemblait à ça. Mais je ne devais pas être complètement
nu,
avoir complètement tous mes esprits. Enfin, si j'avais mes esprits, mais je
vous pouviez pas réagir.
Il y a des choses que je ne discernais pas.
Oui.
Hein. Et puis j'ai compris que c'était, j'ai compris, je ne sais pas comment je l'ai compris. Est-ce qu'on me l'a fait comprendre que c'était une recherche ou un prélèvement qui s'effectuait en vue de quelque chose de génétique ou quelque chose dans ce genre-là, vous voyez.
Oui.
Et puis à un moment donné, je leur dis, mais j'ai eu peur. J'ai eu une sensation de peur, j'ai eu peur d'avoir mal. Et j'ai dit, mais je vais avoir mal. Vous allez me faire mal. Et il y a quelqu'un qui j'ai eu la sensation que quelqu'un me disait non, t'inquiète pas, tu pourrais avoir mal, mais tu ne l'auras pas. Quelque chose comme ça.
Madame, j'insiste, vous n'avez rien lu sur ce sujet.
Madame, je ne me permettrai pas d'appeler. Je suis quand même quelqu'un de sérieux qui ne.
Alors, je peux vous dire tout de suite que vos cas m'intéressent beaucoup. Parce que moins les gens connaissent
c'est
le dossier, moins ça m'intéresse.
J'ai hésité même avant d'appeler. Parce que
non, alors surtout, je compte sur vous parce que vous n'allez pas laisser votre numéro de téléphone en direct à l'antenne. Vous allez bien le laisser à Alexandre, hein, c'est Alexandre, oui, qui est de l'autre côté de la vitre. Et je tiens essentiellement à rentrer en contact avec vous. Donc,
continuez. La suite est toute bête. J'ai eu peur, donc il m'a dit non, m'a fait comprendre que je sentirais rien. Puis au bout d'un moment, je dis mais enfin, c'est pas croyable. Comme, enfin, je me révolte un petit peu, vous voyez. Pas trop, mais juste au fond de moi-même, il y a une espèce de sursaut, en fait, qui dit, mais qui leur fait comprendre que c'est... Ils auraient pu me demander mon avis, qu'on ne fait pas des choses comme ça. Sans, enfin, je suis indignée, je leur fais part de mon indignation. Je leur dis quand même, c'est, ça ressemble à un viol ce que vous êtes en train de me faire. Et bon, bah, ils ne me répondent pas, ils continuent leur truc. Et puis après, je leur dis, c'est pour ça que ça me fait tout drôle de voir votre témoignage, parce que au bout d'un moment, je leur dis, mais il n'y a personne qui va me croire. Quand je vais leur, mais je vais raconter ça quand je vais revenir, jamais personne ne va me croire. On va se moquer de moi, on va pas me croire. Donnez-moi un signe. C'est pour ça que ça me fait... J'hésitais à peine à vous appeler, parce que je me suis dit, mais elle va croire que j'ai copié sur ce que vous venez de dire. Et je leur dis, mais faites-moi... Donnez-moi quelque chose, je vous en supplie. Jamais... Bon, rien ne se passe. Et puis j'insiste, mais j'insiste vraiment. Et j'insiste tellement qu'au bout d'un moment, il y en a un qui me dit, bon, eh ben écoute, puisque tu insistes tellement, on va te donner. D'abord ils m'ont dit, ça sert à rien de toute façon qu'on te donne quoi que ce soit, puisque de toute façon, quand tu reviendras, tu te rappelleras de rien. C'est pour ça que vraiment, c'est tellement similaire que.
Tu dis que j'arrive. Ça, hein.
Mais c'est un rêve. Pour moi, ça n'était qu'un rêve.
Oui, oui.
Et alors il me dit, de toute façon, tu te rappelleras de rien. Et à ce moment-là, je me concentre, mais alors, en moi-même, je me dis, tu vas faire des efforts, ma fille, il faut absolument que tu fasses des efforts pour te rappeler de tout. Enfin, si vous voulez, je mute.
Alors, comment est-ce que vous arrivez à vous souvenir? Ça revient par flash, ça revient au cours de rêve? Comment est-ce que, parce que maintenant, vous avez des brides de souvenirs.
Non, ça m'a marqué, mais alors je termine la fin. Savez-vous ce qu'il m'a dit à la fin? Il m'a dit, celui qui avait l'air de
le chef, quoi.
Vouloir, oui, je sais pas, c'est le chef, enfin, que de vouloir rentrer en contact. Il m'a dit, bon, ben écoute, puisque tu insistes tant, tu vas quand même te souvenir de nous. On te laissera quelque chose, mais qui sera personnel, que tu ne pourras montrer à personne.
Et moi, je peux vous dire déjà ce qui est arrivé. Allez-y, continue la suite, je sais.
Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est un beau rêve, voilà ce que je me suis dit. Comme je suis assez, un peu, j'aime les jolies choses, et puis je m'intéresse à la nature. Et alors, il m'a dit, bah, écoute, c'est pas difficile, regarde. Et ils m'ont montré un immense arc-en-ciel, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Mais vraiment magnifique, comme jamais, mais grand, mais tellement grand que je pensais pas que ça puisse exister. Ben ils m'ont dit c'est pas difficile, chaque fois que tu verras un arc-en-ciel, et ben tu penseras à nous à ce moment-là. Alors après je me suis dit, j'ai pensé souvent, je me suis dit, mais alors je me branchais sur l'arc-en-ciel, et je me disais, mais alors l'arc-en-ciel... Bon, peut-être ça n'est plus ni moins un symbole. Alors après, je me disais, bon, quels sont ces grands symboles, ces archétypes je me suis dit, l'arc-en-ciel, c'est un archétype de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Alors après, j'ai cherché dans la Bible. Vous voyez, j'ai gambergé avec cette histoire d'arc-en-ciel. Voilà. Mais Marie, sinon, j'étais pas plus effrayée que ça, si ce n'est que j'étais indignée. Franchement, j'étais indignée. Je me dis, mais comment... Mais attendez, le plus extraordinaire, attendez. Oh, je n'ai pas fini. C'est que j'ai rêvé qu'il faisait ça à mon fils aussi. Et j'en ai parlé...
Votre fils avait quel âge?
Oh, il était petit, je vous dis. Il avait un peu plus de 2 ans. Et mon petit dernier, qui dormait dans la même chambre que moi pour pas déranger mon mari à l'époque, parce qu'il avait des horaires pas possibles. Et le plus incroyable, c'est que j'avais une fille qui habitait... À ce moment-là, pas très loin de chez moi, un logement, je sais pas, 30-40 mètres. Et puis je lui dis, tu sais, j'ai fait un rêve, mais alors vraiment un rêve, mais vraiment comme j'en ai jamais fait de ma vie. Et je raconte mon rêve. Elle me regarde, elle me dit, oh bah c'est bizarre, j'ai fait à peu près le même genre de rêve. Puis on s'est mis à rigoler toutes les deux, on en a ri, parce que comme il nous arrive toutes les deux, surtout pendant à cette période-là, d'avoir des moments de synchronicité, comme ça arrive entre beaucoup de personnes, mais on avait des phénomènes de synchronicité, on s'est mis à rire, on s'est dit, bah franchement, je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là, qu'on pouvait avoir pratiquement le même rêve, presque en même, disons, je sais pas si on l'a eu la même nuit, mais enfin, elle m'a dit, bah j'ai fait récemment, tout récemment, un rêve comme ça aussi. Je ne sais pas si elle l'a fait la même nuit, je n'ai pas précisé. Voilà. Et puis bon, j'ai bien vu, comme beaucoup de personnes, je pense, disons, 2 ou 3 ans auparavant, la nuit, j'ai vu ce, vous savez, ce que les gens décrivent, quelque chose de très lumineux, vertical, hein. Ça pouvait pas être la lune, puisque la lune brillait bien à côté, elle avait un beau croissant de lune à côté. Bon, le soir avant de m'endormir, je fermais la fenêtre de mes enfants parce que j'aère toujours avant qu'ils s'endorment. Et là, j'ai vu un nuage plus lumineux que les autres. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je suis revenue à la fenêtre. Ah, et c'est là que j'ai vu cette chose que je crois que je ne dois pas être la seule à avoir vu ce genre de choses. Voilà.
Certainement pas. Écoutez, Marie-Jeanne, moi, je vous remercie beaucoup.
Je vous entends très mal.
Je vous dis, je vous remercie beaucoup et je tiens essentiellement à ce que vous laissiez bien vos coordonnées.
C'est fait.
Hors antenne, c'est fait. Hein, pour
vous savez qu'encore maintenant, j'ai du mal à y croire. Mais comme vous parlez...
Heureusement
que
vous avez du mal à y croire.
Vous savez, excusez-moi, j'en avais parlé à quelqu'un en qui j'avais toute confiance, quelqu'un qui était très... C'était pas n'importe qui, parce que c'est pas les choses qu'on peut raconter aux voisins, vous voyez, c'est pas des... Et il m'avait dit, mais c'est bizarre, c'est quelqu'un qui connaissait, qui avait contact avec pas mal de gens, et qui m'a dit, mais c'est bizarre ce que tu me racontes, parce que tu n'es pas la seule personne à m'avoir raconté ce genre de rêve.
Écoutez, moi je voudrais quand même vous préciser quelque chose. Quand on s'est rendu compte de l'importance du nombre de gens qui prétendaient ou qui disaient avoir été enlevés, je vous signale qu'il y a eu un sondage à l'échelle nationale aux États-Unis qui faisait état de 3 700 000 Américains pouvant être enlevés. C'est-à-dire 2% de la population adulte, puisque le sondage ne portait pas ni sur les enfants, ni sur Hawaï, ni sur l'Alaska. Alors quand on s'est aperçu à quel point c'était un phénomène important, je m'entends vous dire que les psychologues sont entrés en scène avec des batteries de tests très sophistiquées pour savoir s'il ne s'agissait pas de délirants, de mythomanes, etc. Et encore une fois, je vous la fais brève parce que je pourrais en parler pendant 1000 ans. Le constat des psychologues est unanime, ces gens sont, entre guillemets, normaux. Ce ne sont ni des mythomanes, ni des affabulateurs, ni des menteurs, ni des délirants.
Je peux me permettre de vous poser une question. Moi, je me suis demandé si est-ce que ce serait pas aussi également peut-être un phénomène psychologique. C'est peut-être pas forcément.
C'est ce qu'on a essayé. Oui, bien sûr. Oui. Écoutez, on en parlera puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui piétine de Suisse. Oui.
On fait en sorte que Marie-Thérèse de Brasse vous réponde juste après que nous ayons reçu Patrice qui nous appelle de loin, de Suisse. Tout simplement. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors, enchanté, j'ai lu aussi votre livre. Je suis un passionné d'ufologie.
Vous avez lu Enquête sur les enlèvements extraterrestres.
Aussi, oui. Oui, mais j'attends impatiemment le livre de Jean-Pierre Petit. Je fais vite parce que je téléphone depuis mon attel, mon crédit est limité. Moi, j'ai un témoignage. C'est que, un matin, à 5 heures du matin, je me réveille avec... je suis parfaitement conscient, dans mon lit... Et je vois une créature de 1m50 de haut, devant ma fenêtre. Et je suis vraiment très très impressionné, et après, pouf, plus rien, un missing time.
C'est-à-dire un missing time, c'est-à-dire vous avez l'impression
après,
de...
Après, je me souviens plus, mais je me souviens de quelque chose de vraiment conscient, j'étais conscient, réveillé, j'ai vu ça. Une voix qui m'a parlé dans la tête, une voix un peu cristalline. Et puis après, dès que j'ai regardé ses yeux, après, pouf, plus rien. Je me souviens plus. Et puis une autre fois, donc à 2h30 du matin, je sens comme si on me fouillait dans la tête. Comme si on lisait un livre dans ma tête. Et puis je sens une tête contre ma tête. Je dis, c'est pas possible, je me suis réveillé, j'ai eu très peur. Et puis je vois partir la créature... par la porte de mon salon et j'entends nettement les bruits de ses pas.
Attendez, vous la voyez partir par la porte ou à travers la porte?
Elle est... j'ai vu, c'était assez rapidement.
La porte était ouverte ou fermée?
Elle était ouverte. Mais je me suis posé la question, comment était-il rentré dans la maison? Parce que tout était fermé, effectivement, ils doivent avoir une technologie assez incroyable pour faire ce qu'ils font. Et puis je voulais vous poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des gens? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça?
Alors, ça, c'est la grande question de tout le monde.
C'est la grande question. Alors,
je voudrais quand même préciser une chose. Est-ce que vous connaissez ces phénomènes qu'on appelle hypnagogiques ou hypnopompiques?
Non.
C'est-à-dire, au moment de l'endormissement ou du réveil, il y a un phénomène du cerveau qui est excessivement connu des spécialistes, hein, pas du grand public, qui fait qu'on a des sortes d'hallucinations.
Non.
Et qui sont mais ça je suis obligée de préciser hein
oui,
quand
oui,
même hein.
Fait,
c'est peut-être pas le peut-être pas votre cas mais il faut savoir que dans les états de conscience hypnopompiques ou hypnagogiques il est tout à fait normal de croire voir des choses puisque ce sont des expériences qu'on arrive à reproduire en laboratoire et en, vous
ça,
pouvez
ça c'est dans le domaine du rêve alors
oui c'est pas exactement du rêve, c'est pas encore le rêve, c'est un moment spécifique de l'état du cerveau. Mais il est très possible que votre cas soit tout à fait celui d'une...
C'est-à-dire que j'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin.
Oui.
Et puis, je me réveille automatiquement vers les 4-5 heures du matin. Vous voyez?
Est-ce que vous pouvez laisser également vos coordonnées au standard?
Oui, alors j'ai envoyé un mail à la radio.
Alors donc je l'aurai alors.
Vous l'aurez plus mon témoignage, de manière... Plus détaillé, hein. Je m'excuse parce que je suis sur mon antenne, mon temps est limité.
Oui, très bien. Non, mais
vous aurez tout mon témoignage détaillé. Et je fais en plus l'astronomie d'amateur. J'ai encore vu deux ovnis dans le ciel.
Alors,
et puis depuis là, j'ai commencé des recherches en ufologie et j'ai compris qu'on nous cachait quelque chose.
Eh oui.
Mais j'attends aussi impatiemment que ça bouge, puis que des gens prennent la décision de révéler ces choses.
Non, révéler, qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas question de faire peur aux gens, il faut quand même avertir.
Moi, je dis, il n'y a pas à avoir peur de ces créatures, elles sont là pour nous aider.
Ah, ça c'est votre avis, monsieur, hein. Tout le monde n'est pas de celui-là.
Voilà, c'était prévu, hein. C'était prévu, et ça a coupé parce qu'il n'avait plus d'unité, voilà, non. Tout simplement. On pourrait peut-être revenir sur la question de psychologie de Marie-Jeanne qui m'a échappé entre-temps.
Est-ce qu'elle est encore en ligne, Marie-Jeanne?
Non, j'ai gardé son numéro de téléphone, par contre, comme prévu. On y reviendra un petit peu plus tard, en tout cas, Marie-Thérèse Debrosse, deux numéros de téléphone pour nous joindre et pour passer sur cette antenne. Et vous posez des questions sujets assez vastes, mais que vous connaissez sur le bout des doigts, en attendant la sortie de ce 12 000 pages, et encore ce sera 15 000 après une émission comme celle-là.
Je n'arrête pas de sabrer. Chaque fois que je sabre, j'en rajoute.
Alors les deux numéros de téléphone sont le 01 45 75 44 44 et 01 45 75 45 45.
Radio ici et maintenant, 95.2 en compagnie de Marie-Thérèse Debrosse. Alors, juste avant d'accueillir Jean-Jacques, Marie-Thérèse de Brosse, on avait promis à Marie-Jeanne de lui répondre lorsqu'elle posait la question, n'est-il pas finalement la question dans cette histoire de psychologie, tout simplement.
Alors, il est bien évident que dès qu'on est confronté à ce genre de dossier, la première réaction, et d'ailleurs ça a été la mienne, en me disant c'est du psychiatrique mal interprété, ce sont des hallucinations, ce sont des phénomènes liés à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, qui est un état également bien connu, ce sont des hallucinations ou ce sont des mensonges. Alors, il est bien évident que les psys, les psychiatres, etc., qui se sont penchés sur ce dossier, c'était pratiquement leur première piste de recherche. Alors, je vais vous donner un exemple parmi les 100 000 qui ont été faites. On a soumis à une psychologue américaine, le docteur Slater, des, entre guillemets, abductés, sans lui dire que ces gens disaient qu'ils avaient été enlevés, emmenés à bord d'une soucoupe volante, violés, etc., sans rien leur dire. En demandant à cette psychologue de les évaluer psychologiquement. Donc, elle leur a fait passer tous les tests possibles, imaginables, les batteries de tests, aussi bien projectifs que n'importe quoi. Et elle a fait son rapport en disant que tous ces individus étaient normaux. Et elle croyait que c'était dans le cas d'entretien pour un job, vous comprenez, d'entretien professionnel pour voir si ces gens étaient capables de travailler dans une entreprise. Bon. Alors, il lui a été dit après, une fois que tous ces examens avaient été faits, une fois qu'elle avait établi ce bilan, que tous ces gens étaient parfaitement normaux, mais ils présentaient quand même une spécificité, qu'ils étaient un peu moins sûrs d'eux-mêmes que la moyenne des gens. Ils avaient tendance à douter un peu d'eux. Alors, on a dit au docteur Slater, bon, autant que vous le sachiez, voilà ce que nous racontent ces sujets. À l'époque, le dossier des abductions ne circulait absolument pas. Et quand le docteur Slater lit les témoignages des sujets, racontant qu'ils étaient dans leur lit, qu'ils se sont retrouvés sur une table avec des gens qui leur prélevaient des échantillons, qui leur tordaient les bras dans tous les sens, il y aurait certains qui reviennent avec des marques qui ne sont pas tristes, je vous l'assure, qu'on leur faisait assister. C'est très souvent le cas. Ils assistent à des projections cinématographiques, mais d'une très en avance au point de vue technologique sur ce que notre cinéma peut faire. Des désastres qui affecteraient, d'après eux, la planète. C'est-à-dire, on leur montre des photos de terre complètement desséchées, ou bien ravagées par la pluie, ou bien d'une telle pollution que la vie n'est plus possible, ou alors complètement glaciaire, les continents temporés sont devenus des tempéraments, des continents glacés, qu'on leur a vraiment lessivé le crâne en leur disant « vous êtes des élus, vous allez porter la nouvelle qu'il faut vraiment changer votre comportement, etc. Voilà le périnucléaire qui vous guette. » Parce que vraiment, on leur fait subir un véritable endoctrinement. Et puis qu'ils sont ramenés à terre de façon générale assez brutale. La psychologue lit ça et elle dit « mais jamais, en 37 années de pratique, je n'ai entendu les histoires pareilles. J'ai eu affaire à des malades mentaux qui se croyaient persécutés par le diable, qui se croyaient visités par Marilyn Monroe ou par Rudolph Valentino, mais je n'ai jamais vu de cas de gens qui se disent enlevés par les extraterrestres. D'ailleurs, dans le catalogue américain des désordres psychiatriques, parce que les Américains font tout de façon très rigoureuse, statistique et ordonnée, tous les désordres psychiatriques sont recensés et numérotés, les enlèvements par les extraterrestres ne figurent pas, parce que c'est totalement inconnu dans les hôpitaux psychiatriques.
Mais ce phénomène ne s'est-il pas produit à la suite des vagues OVNI sur l'Amérique depuis 1947, justement? Est-ce que ce n'est pas rentré au catalogue des fantasmes possibles en raison des premières vagues d'OVNI?
Ce n'est pas le dossier. Il faut voir comment le phénomène est apparu. 1947, baptême des, entre guillemets, soucoupes volantes avec l'observation de Kenneth Arnold. On sait très bien qu'il y avait des vagues de soucoupes volantes bien antérieures à 1947. Au début, on n'entend absolument pas parler d'enlèvement. Toute l'histoire semble suivre une progression logique. Il y a des observations d'humanoïdes, dont certains ont des formes absolument terrifiantes, d'autres qui sont plus proches de nous comme aspect physique. Puis on voit débarquer sur Terre des espèces de cosmonautes avec une tenue de cosmonaute et un appareil pour respirer. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus besoin d'appareils pour respirer. Au début, les visiteurs, tout ça entre guillemets, se contentent d'enlever des plans de la vente, comme le cas bien célèbre, le cas français de M. Maurice Mass, qui voit ses plans de la vente à une époque où personne ne parlait de visites extraterrestres, emmenés par ce qu'il croit être des enfants. Il veut hurler. Et un de ses enfants brandit vers lui une sorte de crayon qui le paralyse complètement. Et M. Mass, stupéfait, dans son champ de lavande à Valensole, voit ses gamins ne pas être des gamins, mais des petits extraterrestres qui arrivent, qui courent dans une soucoupe, qu'il décolle. Le temps qu'il arrive à récupérer ses esprits, il était complètement paralysé. Qu'il aille raconter son histoire, que la police vienne. Il y avait d'ailleurs des traces au sol, correspondant aux trois pieds de l'engin. Bon, au début, les soi-disant extraterrestres se contentent donc d'enlever des plantes, de la terre, des animaux, et puis c'est après ça qu'ils sont passés aux humains. Le phénomène des enlèvements, vraiment, il débute, à part le cas de Higgins, qui est très très mal... très mal enquêté, il débute carrément dans les années 60. Alors il faut dire qu'avant, moi j'ai tendance à m'intéresser aux cas anciens, parce que l'information ne circulant pas à l'époque, le dossier n'était pas contaminé. À partir du moment où une information circule, les mythomanes s'en emparent, ou même sans dire les mythomanes, les gens inconsciemment se fabriquent des scénarios sur mesure. Et puis surtout, c'est qu'au début, les enquêtes étaient des enquêtes policières, faites selon des méthodes policières. Par exemple, vous aviez trois garçons qui faisaient de la pêche sur une barque. Ils sont enlevés, bon, leur cas est super, mais bien connu, mais l'enquête policière va arriver. On va restituer d'abord le climat, météo, est-ce qu'il faisait beau, est-ce qu'il faisait mauvais, quelle était la visibilité, quelle était la position des planètes, etc. Il y a toute une enquête extraordinaire qui n'est plus possible de faire maintenant sous prétexte qu'on harcèle le témoin. Alors, moi je vois par exemple, j'ai un de mes amis qui travaille aux États-Unis qui a été formé aux méthodes d'investigation policière. Il est absolument exclu de pouvoir travailler. De ce qu'on ne disait pas les témoins, on ne peut plus travailler comme ça. Ce qui laisse quand même maintenant la porte ouverte aux délirants, à ceux qui veulent se faire de la publicité, de raconter de belles histoires, vous comprenez. Seulement, ce qui ne trompe pas, à mon avis, c'est la modification des sujets après. Le professeur Kenneth Ring, qui a beaucoup travaillé sur les NDE, Near Death Experience, des expériences aux frontières de la mort, est tombé tout à fait par hasard sur le dossier des enlèvements. Je suis allée le voir dans le Connecticut, on est devenu très amis, et il m'a dit, moi j'avais jamais entendu parler de ce dossier, et un jour, mon éditeur, m'a demandé de lire un ouvrage de Whitley Strieber, qui avait sur sa couverture un alien avec les grands yeux noirs en amande, etc. Je me suis dit, plutôt mourir que de lire une, c'est pareil. Finalement, il l'a lu, et il s'est aperçu au stupeur que le récit des gens ayant subi des NDE était très proche de ceux qui avaient vécu une RR5, rencontre approchée du cinquième type, ou du quatrième type, hein, c'est d'ailleurs les enlèvements. Il a même étudié toutes les différences et toutes les similitudes, mais il a fait un bilan excessivement intéressant des modifications subies par les abductés. Et les modifications subies par les abductés sont infiniment supérieures à celles subies par les expérienceurs de NDE. Puisque ces modifications ne jouent pas simplement au niveau spirituel, beaucoup au niveau spirituel. Ces gens n'ont absolument plus la même mentalité, n'ont plus le regard, le même regard vis-à-vis de la religion, de la foi. N'ont plus la même éthique, n'ont plus du tout la même approche écologique. Bon, tout ça, vous me direz, ce sont des phénomènes d'ordre intellectuel ou spirituel. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des modifications psychophysiologiques qui sont très faciles à recenser avec les instruments de poids et mesure. S'il est difficile d'évaluer la profondeur de l'intérêt spirituel de quelqu'un, il est très facile, par contre, d'étudier ces modifications de réaction à certains produits. Par exemple, on voit le métabolisme changer, le taux de réaction à l'alcool, au tabac, à certains médicaments se modifier complètement. C'est comme s'il y avait quelque chose de changé dans la structure psychophysiologique du sujet. Ça, c'est intéressant. Et ça, vous ne pouvez pas le simuler.
Nous recevons Jean-Jacques pour dialoguer avec Marie-Thérèse de Brosse. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'avoir patienté.
Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir. Ma question touche plutôt à la transcommunication et à la survie après la mort. Vous avez eu l'air d'indiquer tout à l'heure que vous croyez à titre personnel que ces phénomènes étaient plutôt dus au cerveau. Je voudrais vous poser deux questions relatives. En ce qui me concerne, je crois plutôt en la survie après la mort, je l'espère tout du moins. La vie sur Terre serait bien triste s'il n'y avait pas une vie au-delà de la vie terrestre. J'ai perdu une personne proche il y a quelques années. Et à la suite de cela, j'ai contacté des personnes qui pratiquaient la transcommunication. J'ai eu un contact avec une femme avec laquelle j'ai eu des échanges écrits et téléphoniques, et qui donc, à distance, a eu un contact avec la personne qui m'était proche, qui est disparue bien sûr, et qui a enregistré sa voix, et d'autres voix. Et si cela provenait de mon propre cerveau, comment cela pourrait-il se faire dans la mesure où je n'étais pas sur le lieu où a eu lieu cet enregistrement? La première question.
Eh bien, écoutez, je suis très contente de cette question parce que ça me permet de faire une petite mise au point. D'abord, ça peut-être pas d'importance, mais il se trouve que moi, je crois, et toute ma vie est basée là-dessus, en la survie après la mort. Ça sent le moindre doute, mais ça n'entre pas dans la ligne de mes recherches et ce que je crois fondamentalement. Bon. Lorsque je dis qu'on connaît mal les possibilités du cerveau, ça ne veut pas dire que je réduis tous ces phénomènes à une activité spécifique de notre cerveau. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas forcément que ce soit les morts qui s'expriment. Je crois que notre cerveau, dans ses régions subtiles, qui s'approche plus de l'âme que du cerveau biologique, est capable de continuer un dialogue qui n'est jamais interrompu. J'ai trop d'exemples autour de moi, et y compris dans ma propre vie, de ce qui semble bien être des contacts avec des gens décédés pour en exclure la possibilité. Mais je ne dis pas pour autant que ce sont ces gens décédés qui s'expriment. Vous devez savoir que lorsqu'on a étudié les enregistrements vocaux des, entre guillemets, disparus, il y a des techniques très subtiles maintenant pour enregistrer les voix. La police le connaît bien pour identifier les voix. On utilise les phonogrammes. On voit les enregistrements et les ondes spécifiques à telle ou telle voix. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une troublante similitude entre les voix des disparus et les voix de ceux par qui ils passent. C'est-à-dire, tout se passe comme si une sorte d'énergie psychique avait besoin du corps de quelqu'un pour s'exprimer. Je prends par exemple un exemple sans doute plus simple.
Vous avez dû entendre parler certainement des médiums qui font des dessins médiumniques ou automatiques, qui font de l'écriture automatique. Dans les cas sérieux, on ne parle pas des imposteurs, hein, je parle des cas sérieux. Ils vous diront tous que ce n'est pas eux qui écrivent ou eux qui dessinent, que c'est leurs mains. Ça veut dire que c'est comme si une force s'emparait de leurs mains. Je crois que c'est exactement la même chose pour la transcommunication. Je ne nie absolument pas les phénomènes de transcommunication, encore que, malheureusement, et là il y a eu des travaux très pointus, faits notamment par Didier Leroux, qui montrent que certains cas qu'on pouvait penser comme très sérieux dans le domaine de la transcommunication, hélas, s'avèrent être des fraudes. Bon, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je maintiens, mais je ne suis pas le pape, hein, que pour moi, ce ne sont pas les décédés qui s'expriment directement, ce sont des énergies psychiques liées à ces décédés qui se servent de ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un corps qu'ils n'ont plus. Et même si vous n'êtes pas présent lors de l'enregistrement, ça se fait à distance. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, oui, oui.
Et ça ne nie absolument pas la réalité du phénomène. Et ça ne nie absolument pas la réalité des communications qu'il peut recevoir, encore que vous avez pu remarquer que la plupart du temps, sauf que ça nous touche quand ce sont des gens qui nous sont chers, quand vous avez un témoignage d'amour qui semble venir de l'au-delà, c'est bouleversant, mais en général, quand vous regardez avec le regard froid, objectif et glacial du scalpel, le niveau des communications est en général assez plat et assez banal, même s'ils nous font chaud au cœur. Il n'y a, à mon avis, qu'un seul cas de message tout à fait extraordinaire, et ça j'encourage tout le monde à le lire, ce sont les lettres de Pierre Monnier, ce jeune officier de la guerre de 14, qui s'est exprimé à sa mère, qui fait état, notamment dans le domaine de la théologie, de visions excessivement intéressantes qui nous permettent de sortir de la théologie banalement dualiste dans laquelle vivait l'Église catholique à cette époque et sur laquelle il vit encore maintenant, où là vous avez un contexte excessivement élevé. Mais en général, on ne peut pas dire que ce soit le cas dans les communications, dans la transcommunication usuelle.
Pour aborder le sujet de la vie après la mort. Deux autres courtes questions. J'ai lu récemment sur un journal qu'il y avait eu une étude scientifique et médicale qui avait été réalisée sur une personne et qui tendait à prouver par le biais d'une expérience à base d'électrodes ou je ne sais plus quel autre matériel qui avait été en contact avec le cerveau humain, que l'on avait pu recréer en quelque sorte des visions qui pourraient rappeler une NDE. Donc cette expérience visait à indiquer que les NDE n'existaient pas en fait.
Oui, mais c'est pas parce qu'on les recrée artificiellement qu'elles n'existent pas. Alors là, c'est là où je rentre absolument en bagarre avec quelqu'un comme Susan Blackmore ou le professeur Persinger. Le professeur Persinger, dans son laboratoire de l'université de Laurentide, a soumis les cerveaux de certains sujets, d'ailleurs sans aucun souci de ce qui pouvait leur arriver par la suite, à des bombardements assez spécifiques d'ondes électromagnétiques dans certaines parties du cerveau. Et effectivement, sous ce bombardement, les sujets ont vécu des expériences. Bon, mais pour prendre un exemple trivial, ce n'est pas parce que lorsque je sors de chez moi, je reçois des gouttes d'eau parce que ma voisine au-dessus de ma tête est en train d'arroser ses géraniums, qu'il ne peut pas arriver qu'il pleuve et que je reçoive de la pluie. Vous comprenez, c'est la même chose. Ce n'est pas une preuve, ça. Mais on ne peut pas négliger le fait que, dans certaines circonstances, le cerveau peut produire ce type de phénomène.
Deuxième question.
Je vous entends assez mal, je sais pas ce qui se passe.
Deuxième question, et ensuite je vais vous laisser. comment expliquez-vous les phénomènes d'apparition après la, la mort, tels que les fantômes, les dames blanches, etc. Je vous remercie de votre réponse et je vous laisse. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors,
expliquer les apparitions de fantômes. D'abord, il y a trop de sortes de phénomènes d'apparition sont trop différents, donc on ne peut pas tous les mettre dans un même sac. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la plupart du temps, quand il y a hantise, ces hantises ne sont pas vues par tout le monde. Moi, j'ai fait de la chasse aux fantômes en Écosse, par exemple, dans les propriétés hantées. Je ne me crois pas comme, je me considère pas comme totalement toqué, mais j'ai véritablement vu des formes blanches, j'en ai même photographié, et l'ami avec lequel j'étais, qui est d'une totale bonne foi, m'a juré, j'ai tout lieu de le croire, qu'il n'avait rien vu. Donc je pense quand même qu'il y a des cerveaux qui sont plus sensibles à certaines fréquences que d'autres. Ensuite, je pense qu'il y a des mémoires qui sont associées au lieu où se sont passés des événements. Quand vous faites un geste, n'importe lequel, par exemple, je suis en train, par exemple, là, de secouer ma main et saluer du bras le technicien de l'autre côté de la vitre, ce geste du bras, il est inscrit dans la mémoire des murs. Bon. Quelqu'un entrera dans la pièce, ne verra rien. Quelqu'un entrera dans cette pièce et pourra décoder ce geste. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de visiter un appartement avec un de mes amis, et je lui ai dit, telle personne est venue. Bon, il est tombé sur le derrière, mais c'était vrai. Je ne pouvais pas le savoir. Donc, vous avez des cerveaux qui décodent les choses. Alors, les apparitions ne sont pas forcément très objectives, même si, quelquefois, on les voit.
Nous avons Pascal avec nous. Pascal, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Je trouve ça super. Enfin bon, j'ai pas de téléphone, donc je suis descendu dans une cabine téléphonique pour vous appeler.
C'est un héros.
Je suis très ennuyé en ce moment au niveau financier.
Ben, on peut peut-être vous rappeler.
Je vis avec ma grand-mère, ouais. Qui a 87 ans, qui a eu 87 ans le 3 novembre. Et puis, je vous écoute très souvent, ne serait-ce que Petit et Jean-Paul Lyon, que j'adore parce que je trouve qu'ils sont géants. Oui. Par contre, il y a un certain temps, j'ai eu des trucs très bizarres qui se sont passés. Je sais pas d'où ça peut venir, c'est pour ça que j'appelle. Il y a une nuit où j'ai dormi et j'ai vu trois triangles arriver sur moi. Alors, est-ce que je dormais? Est-ce
dans
que je dormais pas? Est-ce que j'avais bu? Est-ce que j'avais pas bu? Est-ce que je vois pas?
C'est pas moi qui peux vous le dire, mais vous les avez vus comment? Dans votre chambre?
Ah ouais, ils sont arrivés dans ma chambre. Je dors avec la fenêtre ouverte et je les ai arrivés sur moi.
Oui, ouais, de la
chance. Et je peux les décider en plus parce que... Et je me suis retrouvé après dans un monde complètement... complètement différent de ce qu'on peut vivre dans notre France.
C'est-à-dire, quel monde?
Je sais pas, c'était un monde irréel, j'étais à côté, c'était un monde irréel.
Mais attendez, est-ce que ce n'était pas tout simplement un rêve?
Ah non, c'était pas un rêve, j'étais réveillé.
Oh, mais quelquefois on rêve qu'on est réveillé, hein.
Mais ça même pas, en plus, de plus, ça m'a pas fait de mal, j'étais bien. Je me suis retrouvé avec des gens que je connaissais pas du tout.
Et ces gens, ils apparaissaient comment dans votre vision?
Ils m'apparaissaient sympathiques.
Mais comment c'était des humains, c'était des petits gris, c'était des reptiliens.
Je peux pas le décrire.
C'était des. Vous aviez l'impression qu'il y avait des êtres, mais qu'ils n'avaient pas une apparence
physique.
Il y avait personne. Vous aviez une impression de présence.
Il y avait une impression de présence.
Oui, mais ça, je suis désolée parce que il faudrait qu'on parle très 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 longuement pour que j'arrive à tirer quelque chose d'à peu près correct de vous. Hein. C'est pas en deux minutes qu'on peut savoir. Mais...
Parce que vous parlez. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup. Je m'en fiche. Je suis complètement insomniaque. Donc j'écoute cette radio souvent, très très souvent. vous êtes tous adorables, tous ceux qui viennent parler sur cette radio, et que ce soit Jean-Pierre Petit, moi, alors Jean-Pierre Petit, moi je vais être mal poli, mais alors qu'est-ce qui me fait rêver ce type quand il parle d'un tas de trucs dont on n'est pas au courant et qui peut-être et certainement peut exister. Que des ça, trucs à 3000, 4000, 5000 km/h,
beaucoup plus que ça. Mais vous n'allez pas attendre 3 semaines quand elle sera partie à 3 semaines d'ici pour nous dire que Marie-Thérèse de Brosse vous fait rêver et qu'elle est fantastique.
C'est la première fois que je vous téléphone.
Oui, mais alors j'aimerais revenir à votre témoignage.
Mais c'est un truc que vous avez vécu en plus entièrement, et je l'ai senti je l'ai senti. C'est comme si je le ressentais rentrer dans mon ventre.
Oui, et ça s'est passé à plusieurs reprises.
Ah non, ça s'est passé
une seule fois,
mais
c'est inoubliable.
Délire, ouais. J'ai eu peur complètement, je flippais, je tremblais.
Et qu'est-ce qu'il y a eu de changé dans votre vie après ?
Oh, beaucoup de choses.
Par exemple ? Je suis désolée, mais il faut répondre à ce genre de questions.
Oui, car après nous aurons Jean-Pierre avec nous.
Une rupture, par exemple.
Et vous établissiez un lien de cause à effet entre votre expérience et cette rupture ?
Absolument pas. Absolument pas. Ah non, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, je sais pas, il y a quelque chose qui a cassé complètement, et puis...
Parce que vous n'étiez plus le même. Donc vous ne pouviez plus vivre le même quotidien, c'est ça ?
Non, je pense différemment, complètement.
Et vous pensez que c'est une amélioration ? Est-ce que vous vivez mieux maintenant ?
Non, pas du tout. Enfin, je le vis mieux. J'ai l'impression d'avoir compris certaines choses.
Dans quel domaine est-ce que vous comprenez mieux certaines choses ?
J'ai l'impression de comprendre certaines choses de la vie plus sincèrement, plus correctement, plus logiquement. Voilà. Je sais pas. J'ai l'impression de comprendre tout ça plus nettement.
Eh ben, grosso modo, vous êtes quand même mieux dans votre peau.
Non, pas du tout, parce que ça me fait suer. J'ai pas envie. J'ai un petit garçon de 7 ans. Je veux continuer à le voir, et je me suis séparé de tout ça, et ça me paraît pas logique.
Pourquoi est-ce que ça serait logique après tout ?
C'est pas du tout logique.
Mais qu'est-ce qu'il y a de logique dans
de ce jour-là où j'ai vu ce truc arriver sur moi, et j'étais réveillé. J'avais l'impression de rêver, mais j'étais réveillé. J'ai vu arriver 3 boules sur moi avec des triangles, des triangles qui étaient sur ces boules. Et j'ai rien compris.
Vous étiez dans votre lit ?
J'étais dans mon lit.
Est-ce que vous avez essayé de vous lever ?
Oui, j'ai couru à la fenêtre.
Attendez, vous m'avez dit que ces phénomènes lumineux étaient dans votre chambre.
Oui, c'est...
Est-ce que vous avez essayé de les toucher ?
Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas dit ça. J'ai l'impression que ça arrive... C'est pas que j'ai eu l'impression, c'est arrivé sur moi, j'en ai eu mal au ventre.
De peur. Et pas d'un contact physique, de peur. Vous avez
de peur.
Oui, c'est ça, oui.
Mais après, je tremblais, moi.
Oui, malheureusement, je ne peux pas commenter, parce que je vous dis, nous n'avons pas parlé assez longtemps, et ça, ce sont des... ce sont des expériences, j'ai un certain nombre d'expériences comme ça, de gens qui ont vu, effectivement, des boules entrer dans leur chambre, certains les ont touchées, d'ailleurs. Il y en a qui se sont même transformés en gâteau au chocolat.
Ça c'est une belle expérience.
Ah bah chocolat, non, je veux pas devenir chocolat.
R6. Merci beaucoup, Pascal.
Je vous en prie.
Passe une bonne soirée.
Ah bah je vais vous écouter, là.
Bah oui, t'as intérêt. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au
revoir. Merci, Pascal. Juste avant d'en savoir, Jean-Pierre, on va faire une petite place aux interventions par le biais du chatroom de ici-et-maintenant.com. Et c'est Daryl qui interpelle Marie-Thérèse de Brosse. Question, sans parler forcément des problèmes psychologiques et psychiatriques, que pense-t-elle des hypothèses d'un niveau de conscience différent qui permettrait ces rencontres du troisième, quatrième type, que celles-ci se dérouleraient donc non pas sur le plan de notre réalité habituelle, même s'il faudra savoir ce qu'il convient d'appeler la réalité, ce qui est un autre débat, mais donc sur un autre plan touchant une autre dimension. J'ai entendu, nous dit Daryl, j'ai entendu parler de ces hypothèses avancées aussi pour expliquer des expériences spirituelles particulières.
Non, il est bien évident que ce type d'expérience se passe en général dans un autre état de conscience. avant que la recherche commence à s'organiser autour des expériences type NDE ou RR5, il y a longtemps que les médecins et les psys avaient situé presque géographiquement dans le corps le lieu qui déclenche les expériences mystiques, hein, c'est l'amygdale par exemple. On sait qu'il y a certaines parties de notre cerveau qui sont plus malléables à certains types d'expériences. Et dans ce domaine-là, il n'est pas anodin de savoir que toutes les grandes traditions, hein, je veux dire les traditions aussi bien bouddhistes que chrétiennes, pré-chrétiennes, etc., préconisent les méditations aux premières lueurs de l'aube, parce que c'est l'époque ou le moment de la journée, lorsque le soleil commence à peine à poindre, où notre cerveau est le plus accessible à la notion de transcendance. Et quand on étudie l'histoire de la mystique, quelles que soient encore une fois les traditions, on s'aperçoit que les grandes expériences mystiques ont toujours lieu à cette heure-là, comme s'il y avait quand même des conditions qui favorisaient l'émergence de situations particulières. Personnellement, après avoir beaucoup jonglé avec les notions de autres dimensions, parce que c'est une sorte de mot valise, de mot fourre-tout, qui est bien pratique quand on ne veut pas être précis, j'évite un petit peu de les utiliser maintenant. Si vous avez lu l'ouvrage de Pollion, vous verrez d'ailleurs la conception du mythe d'un univers à 20 dimensions, qui l'explique d'ailleurs très bien, hein. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur le phénomène des abductions, et j'ai beaucoup travaillé avec des physiciens, et j'étais assez sidérée de voir non seulement que certains physiciens parlaient d'univers, à l'époque c'était surtout 13 dimensions, bon, mais d'un physicien qui me parlait d'un univers à, je crois, c'est 5,7 dimensions. Hein, la virgule, je l'avais pas avalé, bon. Histoire de dimensions, je ne vois pas très bien ce qu'elles vont en faire là-bas. Les expériences type NDE et type RR5 sont pratiquement toujours vécues dans des états modifiés de conscience. La grande différence que je fais, c'est que quand vous avez un sujet qui vit une NDE, il vous raconte que il est rentré dans un tunnel, qu'il a traversé le tunnel, qu'il a vu l'être de lumière à la sortie, qu'il a rencontré ses proches décédés, etc. Mais tous les médecins vous diront, cet homme n'a jamais quitté son lit. Il était en coma dépassé, ou il était même quelquefois d'ailleurs, comme c'est le cas de d'Alexis Ambre, il était considéré comme mort et dans la chambre, comme vous, entre guillemets.
Nous accueillons Jean-Pierre. Jean-Pierre.
Bonsoir Marie-Thérèse.
Bonsoir.
Bonsoir Didier. Moi, j'ai un témoignage à vous raconter de quelque chose qui m'est arrivé. Je me suis réveillé dans un jardin, évanoui. Je savais plus où j'étais. Alors je me souviens m'être levé. J'avais une bosse sur le front. Puis je vois une grande maison blanche.
Attendez, cette bosse, c'était à votre réveil, vous l'avez constaté, la bosse?
Non, je ne l'ai pas constaté, je l'ai constaté que deux ou trois jours après.
Oui.
Mais je me souviens m'être réveillé, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne reconnaissais plus rien, quoi. C'était une grande propriété, il y avait de l'herbe par terre, du lierre. Alors je me lève, puis je me dirige vers la maison, et je me dis, oh non, vaut mieux pas, parce que si quelqu'un me voit, on va me prendre pour un voleur. Et je me souviens plus comment je suis rentré chez moi, et le fait est que, avant, je me trouvais à Paris, quoi.
Attendez, quand vous avez commencé votre aventure, vous étiez à Paris?
Ouais, j'étais à Paris, ouais.
Oui.
J'étais chez un ami, et j'ai eu... C'est-à-dire qu'en allant chez lui, je devais partir quelques jours avec lui à Marsac. Enfin, ça c'est... Je sais pas trop où c'est, mais il m'avait dit Marsac. Et puis moi, comme un idiot, j'ai pas emporté de bagages, j'ai rien emmené. Et j'ai dormi quand même chez lui, et le matin, j'étais très mal, quoi, à Paris. Et puis, eux, ils voulaient partir, mes deux amis. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont appelé les flics et tout. Et puis moi, je suis sorti, j'en ai eu marre. J'étais vraiment pas bien psychiquement. Et là, le trou noir. Et je me suis réveillé après dans ce jardin, dans cette propriété. Et je suis sorti de la propriété et retrou noir. Et puis après, quelques jours après, j'ai réussi à rentrer chez moi, mais j'avais pas d'argent, j'avais rien sur moi. Je sais pas comment s'est effectué mon déplacement. Et arrivé chez moi, je reçois un papier de la gendarmerie de Marly-le-Roi, parce que j'avais plus mon blouson noir. Et c'était la gendarmerie qui l'avait retrouvé dans la rue.
Et dans la rue, dans une autre ville, ou dans une ville où vous étiez quand même passé avec votre corps physique?
Mais je sais plus. C'était la gendarmerie de Marly-le-Roi, mais moi, je me rappelle pas m'être réveillé à Marly-le-Roi.
Mais est-ce que vous avez été passé à Marly-le-Roi? Attendez, parce que moi, je suis parti de Paris, on va à Marsac, qu'est-ce que Marly-le-Roi vient faire ici? Vous vous êtes arrêté à Marly-le-Roi?
Non, je me suis retrouvé dans un jardin. Je sais pas comment j'y suis arrivé, de Paris.
C'est très mal desservi, en plus, Marly-le-Roi. C'est...
Je me suis retrouvé dans une propriété. Et là, retrou noir, après, je sais pas comment j'ai pu retrouver la maison de mes parents, quoi. C'est assez spécial et c'est pour ça que j'écoutais votre émission et ça m'a angoissé un peu. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce qui m'est arrivé, quoi. Parce que c'est assez troublant et c'est un peu effrayant parce que...
Est-ce que vous avez une idée du timing qu'il vous a fallu pour vivre ces aventures?
Très dur, bon, j'ai beaucoup de mal à me... Parce que c'est le trou noir. Je me rappelle être sorti de chez mes deux amis. Ils m'ont dit, bon, t'as pas pris de bagages, t'as pas pris d'argent.
Vos amis vous ont vu sortir de chez eux?
Ouais, ouais.
Mais vous êtes sorti par quel moyen?
Ils avaient même appelé un taxi.
Vous êtes parti en taxi, alors?
Non, non, non. Ils avaient appelé un taxi, mais moi, je suis parti, j'ai pas attendu le taxi, je suis parti
Vous êtes parti à pied? Et dans votre tête, ouais. Où alliez-vous?
Je sais pas.
Oui?
J'avais aucun argent sur moi, rien. Et je me suis retrouvé dans cette propriété, après, je sais pas combien de temps après, avec une bosse, et dans cette propriété où je me sentais vraiment comme un intrus, parce que je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et après, retrou noir, je me souviens plus comment je suis, je me souviens pas de cette ville, quoi, je vois pas du tout ce que c'était comme ville.
Écoutez, moi je peux pas vous le dire, mais alors, si vous me permettez, je vais vous citer une histoire, enfin un cas, encore une fois, qui a très bien été enquêté par la police. Parce que votre histoire m'y fait penser parce qu'elle a un côté un petit peu conte médiévaux. Et pour moi, c'est sans doute un des cas les plus forts des enlèvements. C'est le cas de Higdon. Higdon était un chasseur et qui aimait particulièrement chasser l'élan. Alors un jour, il part avec sa voiture. Il garde sa voiture et, à peine sorti de sa voiture, dans la forêt, il voit deux élans magnifiques. Et ce salaud qui est chasseur, bon, très bien, prend son fusil et au moment où il épaule, tous les bruits de la forêt s'arrêtent. C'est-à-dire, il n'entend plus les oiseaux dans les arbres, il n'entend plus le vent, il n'entend plus rien. Il tire et encore une fois, il y a une enquête de police en béton. Hein. Et à sa stupeur, la balle, au lieu d'aller frapper l'élan, part tout doucement, tout tranquillement du canon et tombe par terre mollement. Higdon, stupéfait, heureusement pour nous d'ailleurs, ramasse la balle et la met dans sa poche. Détail très important, donc il ne s'est visiblement pas brûlé. Et quand il regarde les élans, ce ne sont plus des élans. Il y a une espèce de créature assez monstrueuse. On dirait vraiment un conte de fées du Moyen-Âge, mais c'est tout à fait sérieux. Une créature assez monstrueuse dont le bras se termine par une sorte de baguette. Et l'entité lui dit « Comment vas-tu ?» Vraiment, c'est très intéressant quand on voit une créature absolument effrayante qui vous demande simplement « Comment vas-tu ?» Higdon bredouille bien et l'entité lui tend, ça c'est maintenant on passe dans Alice au pays des merveilles, lui tend une boîte de pilules qu'il lui lance et lui dit mange, tu en auras besoin pour le voyage. Et Higdon, comme dans Alice au pays des merveilles, avale les pilules et sans
transition, parce qu'il y a toujours des trous dans ces histoires-là, comme dans les rêves d'ailleurs, il se retrouve dans un ovni qui part à toute vitesse, et à l'intérieur, les créatures sont de temps en temps des créatures, tantôt des élans. Et la soucoupe volante, oui, non, Didier se marre, mais moi, c'est une affaire admirable, et vous rirez moins tout à l'heure, Didier.
Il cueille les champignons, lui.
Il arrive dans une cité complètement cristalline, et là, on arrive dans le récit de science-fiction, des tours en cristal, etc. Et il se retrouve, comme tous les enlevés, à l'intérieur d'une pièce, sur une table, où les aliens, comme d'habitude, se livrent à leur petit passe-temps habituel, c'est-à-dire ils lui enlèvent sa culotte, ils commencent, etc. Et ils sont foudrage en examinant le sexe de Hiddon. Ils lui décrètent « Tu ne fais pas l'affaire ». Et en l'espace d'un instant, Hiddon se retrouve dans la soucoupe qui file vers la Terre et à un moment, une trappe s'ouvre et Hiddon est précipité dans le vide. Avec de sérieux dégâts, clavicule cassée, etc. Il se trouve dans un coin de forêt qu'il ne connaît absolument pas. Et au loin, il repère un camion. Il rampe, il n'y a personne. Heureusement pour lui, Hiddon est sibiste. Et il appelle, avec la CB, il appelle la police en disant « Je ne suis absolument pas où je suis. Je ne sais absolument pas où je suis. » Encore une fois, j'abrège cette histoire qui était absolument formidable. Et la police arrive à le retrouver, mais, petit détail tout à fait surprenant, Hiddon n'est pas dans un camion inconnu, il est dans sa propre voiture. Seulement sa propre voiture flotte sur un espèce d'îlot vaseux au milieu d'une île auquel les pompiers ne peuvent pas avoir accès. On ne comprend pas comment la voiture n'a pas coulé. Donc les pompiers appellent les flics appellent les hommes grenouilles. Et c'est par la police qu'on connaît cette histoire d'ailleurs, c'est par la police que le professeur Sprinkle, professeur de psychologie, est arrivé là-dessus. Sauvetage de Hiddon, qui évidemment est emmené à l'hôpital, parce qu'il a quand même, dans sa chute, subi quelques traumatismes. Et la première chose qu'on fait à l'hôpital, parce qu'évidemment, dans l'ambulance qu'il conduit à l'hôpital, Hiddon parle de cette histoire. Alors évidemment, il est sous le choc. Et premier réflexe des policiers, cet homme est ivre ou drogué. Pour raconter des salades pareilles.
Je me permets de vous interrompre. Il tombe, il rampe, il a la clavicule.
Il rampe
longtemps parce que si c'est un îlot.
Alors lui n'a pas traversé l'eau dans son récit. Mais c'est pour ça que tout ça c'est extravagant. Non, mais c'est pour ça que ça a intéressé la police, oui.
En clair,
on peut ramper. Moi j'ai eu un accident. J'ai eu un accident de moto et je peux vous dire qu'avec une clavicule cassée, on peut ramper. Hein. Bon. Donc. Il est à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il n'est pas drogué, fait de prise de sang, il n'est pas alcoolique, mais il a ses papiers. Donc on appelle sa femme, évidemment. Enquête de moralité, Hiddon est un citoyen parfaitement respectable. Et quand Hiddon peut sortir, la femme demande le dossier médical et entre dans une violente colère en disant « Ça, ce n'est pas le dossier de mon mari ». Mais si, c'est le dossier de mon mari. Ah, permettez. Mon mari touche une pension d'invalidité car il a un poumon très abîmé. Il a un poumon qui est quasiment mort. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour lui. Et vous me présentez des photos d'une cage thoracique. Évidemment, on avait photographié la cage thoracique parce qu'il avait, il était quand même un peu fêlé de partout. D'un individu qui a deux poumons normaux. Les médecins sont foudrages, on fout, on refait une radio. Hiddon a les deux poumons totalement normaux. Il avait un problème de calcul dans la vésicule biliaire. Le calcul avait disparu. C'est le professeur Sprinkle de l'université du Laramie qui se déplace. Il a entendu parler de cette affaire par les flics, parce que les flics n'ont jamais entendu parler qu'une voiture puisse flotter sans couler dans un truc de vase. Ils sont arrivés avec une échelle, enfin c'était l'opération sauvetage. J'en parle longuement dans mon livre parce que c'est un cas qui m'intéresse beaucoup. Alors, l'enquête de moralité de Higdon est tout à fait béton. Ce sujet est un citoyen respectable, qui n'est pas affabulateur, qui ne s'intéresse pas aux ovnis, rien du tout. On lui fait passer toutes les épreuves possibles au détecteur de mensonges. Alors, je précise bien que le détecteur de mensonges ne permet jamais de savoir la réalité des faits. Il permet simplement de connaître la sincérité du sujet. Par exemple, si vous me tuez, on fait passer au détecteur de mensonges, est-ce que vous avez tué Marie-Thérèse Brosse, vous allez dire non, non, non. Ou vous allez dire oui, 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 mais le détecteur de mensonges réagira à votre émotion. Si vous dites non, non, non de façon très émue, ben, votre émotivité, bon, je ne vous fais pas de dessin. L'examen de la balle est tout à fait hurissante. La balle est retournée de l'intérieur comme un gant. Voilà. Je parle de ce cas parce que ça a un côté complètement comme du conte de fées moyenâgeux. C'est le genre d'histoire où j'aurais pas tellement travaillé sur le dossier, je n'aurais jamais accepté une histoire pareille. Jamais. Et d'ailleurs, Higdon est un type excessivement sympathique, posé, qui ne cherche pas du tout la publicité.
Est-ce que tu as une dernière question à poser, Jean-Pierre ?
Oui, parce qu'il y a 4-5 ans, je faisais assez souvent des rêves d'ovnis, quoi. Je rêvais dans la nuit que ça se passait la nuit. Alors, je les voyais dans le ciel. Puis, des fois, ils me fonçaient dessus. J'étais obligé de me mettre à plat ventre par terre. Plusieurs fois, des choses comme ça qui m'arrivaient la nuit.
De façon consciente, vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir observé un phénomène ovni ?
Non, je me suis intéressé, mais j'ai pas d'expérience à ce niveau-là.
Oui, mais alors attendez, parce que il est vrai qu'il y a certains sujets qui vivent des expériences tellement dérangeantes que leur conscient leur fait oublier, n'est-ce pas, le conscient ne veut pas assumer la responsabilité de tout, et on a cette espèce de poubelle, l'inconscient, où on stocke ce dont le cerveau ne veut pas garder la responsabilité. Mais quand même, il y a le phénomène des rêves, et vous pouvez rêver de diplotocus rose avec des pois violets, ouais. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous avez vu des diplotocus roses avec des pois violets. Heureusement que nous avons cette activité onirique qui nous permet de débrayer un peu du quotidien, qui nous fait voir des choses ou merveilleuses ou désagréables, mais ce n'est pas parce qu'on rêve de quelque chose que ça correspond forcément à du vécu.
Oui, oui, non, mais c'est pas, je disais pas ça, mais à l'époque, ça m'avait troublé, quoi, parce que c'était des rêves assez mouvementés.
En général, les rêves d'OVNI ne sont jamais neutres. La thématique OVNI nous interpelle à un niveau très profond. Et d'ailleurs, il n'est que de voir l'opposition effroyable, passionnelle, de mauvaise foi, des sceptiques qui, la plupart du temps, ne connaissent pas le dossier et qui deviennent mais carrément mauvais, qui traitent ceux qui s'y intéressent de débiles parce que c'est quelque chose qui nous interpelle très profond, plus profondément qu'on ne le voudrait, et de même que souvent les gens qui s'intéressent à ce dossier s'y intéressent quelquefois un peu trop passionnément, hein. Ce n'est absolument pas un sujet neutre.
Ouais, ouais, ok. Voilà, bah c'est tout.
Merci de votre témoignage.
Que je vous ai pas trop embêté avec mes histoires.
Mais pas du tout. Bonheur de vous entendre tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Merci Jean-Pierre. Vous êtes à l'écoute de Marie-Thérèse Dobros sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, le titre de son bouquin, paru en 95, et qu'on peut encore trouver aujourd'hui parce qu'il est ressorti chez J'ai lu, en édition de poche, c'est Enquête sur les enlèvements extraterrestres. Marie-Thérèse Dobros vous accueille au 01 45 75 44 44 ou 45 45. Thank you.
je me dis que ce ne va non, ce ne va non. Sono partiti per vedere gli uomini farfalla. C'è ancora una bella anima che se ne va, sei andata a vedere gli uomini farfalla.
Ici maintenant, 95.2, pour dialoguer avec Marie-Thérèse Dobros, nous recevons David.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pardon. Oh oui, oh, bonjour, je vois que je ne sais plus.
J'écoutais votre émission qui est très 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 intéressante.
Merci.
Et en fait, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue avec des copains, c'était surréaliste, enfin bref. C'était en Martinique, il y a environ 2 ans et demi. J'étais avec deux copains. On est allé... pardon, excusez-moi, je suis malade. On est allé à la plage faire une petite session de surf et faire du camping avec des hamacs. Et bon, tout le monde est à l'eau avec les surf et tout. On prend les vagues et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai un copain qui me dit il y a une présence et tout. Moi je regarde, ouais, c'est ça. Mais il me dit si, là, et il m'indique un point. Mais c'est bizarre que c'était dans l'eau. Alors je me suis dit, bon, c'est un banc de poissons haute, alors bon, mais je plonge et tout. Et je n'ai rien vu, mais c'est vrai que j'ai senti fortement la présence, quoi. Mais c'était pas effrayant, quoi. Alors bon, j'ai essayé de me raisonner, genre c'est chelou, ça. J'appelle notre pote et tout. Alors on lui dit viens voir. Alors,
attendez, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous aviez vu? Vous avez dit un point. C'était un point lumineux. Qu'est-ce que vous avez vu?
Non. Je ne voyais rien dans l'eau, mais c'était une forte présence.
Une sensation de présence. Oui.
Ah oui, mais super forte. Et j'avais l'impression qu'elle se déplaçait. Et ce qui est bizarre, c'est que mon copain aussi, et puis l'autre, voyait et suivait les déplacements avec moi. Et ça nous a paru bizarre, mais sur le coup, ça nous a pas plus interloqué que ça, quoi. Alors, on a continué à faire du surf, à prendre des vagues. Bref, une heure après, on est allé prendre manger des pizzas et des coca, et il y avait toujours cette présence qu'on ressentait des fois autour de nous. Et c'était super bizarre parce que je le dis, hein, pour les mauvais esprits, on n'avait rien bu, on n'avait rien fumé, quoi. Bon, sur le coup, on a on a oublié ça. Et le soir même, quand on a campé sur la plage, on a tous fait le même type de rêve.
Oui.
C'est très bizarre. Genre, tu dors et puis c'est comme si tu te réveilles en rêve, quoi.
Oui.
Et je me voyais à Mac ou au bord de la plage. Pardon. Et c'est là que j'ai vu une nana dans l'eau.
Ah.
C'est pas qu'elle était belle, mais c'était enivrant. C'était un truc incroyable, quoi. Elle m'a parlé. Pardon. Excusez-moi, je suis malade. c'était. Comment vous expliquer ça? Bref, j'étais dans un tel état quand je me suis réveillé le lendemain. Si dans le rêve elle m'avait dit de me réveiller, d'aller dans l'eau, de me noyer, je l'aurais fait, mais sans hésiter, quoi. Et puis ça m'a trop traumatisé dans le sens que j'avais, mais c'est envoûté, quoi. Alors j'ai parlé ça à mes potes et tout. Alors il y a un copain à moi qui m'a dit exactement pas, qui a vu une nana dans l'eau qui lui a parlé, que lui dans son rêve, pareil, qu'il avait l'impression d'être réveillé dans son rêve, qu'il la suppliait de venir avec elle et tout. Mais bon, et puis après elle est
Et votre troisième ami a également vu cette superbe créature.
Voilà, et lui, on se demandait où il était. Lui, il était déjà dans l'eau. Il était quand même 7h du matin. Il était dans l'eau avec son board en train de fixer l'horizon, pareil, traumatisé, quoi, tu sais.
Et lui aussi avait vu la superbe créature.
Ah oui, mais si, mais en fait, c'est pas belle dans le sens physique.
Différente.
C'était, mais vraiment enivrant, quoi. C'était vraiment féminin, magnétique et tout. Et c'est vrai, bon, nous, on s'est plus ou moins renseigné tout. Bon, il paraît qu'il y avait un lieu où que les anciens indiens, Awawak et les Araïbes, les gens qui habitaient l'île avant, faisaient des offrandes et tout, et même aujourd'hui,
la mer, oui.
Et même aujourd'hui, tu as des gens qui balancent des bijoux. Bon, maintenant c'est une réserve naturelle et c'est plus des spots de surf, quoi. Et c'est vrai que, bref, c'est pour vous dire que voilà, j'ai jamais pu comprendre ça, et c'est vrai qu'après on était dans un tel état, si dans le rêve elle nous avait dit de nous noyer, on allait aller dans l'eau gaiement et on allait se tuer, mais le sourire ou l'aide, et c'est ça qui est effrayant, quoi, c'est cette perte de contrôle, quoi.
Alors là on peut relier un petit peu avec l'auditeur précédent qui nous parlait de hantise. Il est possible, ça je peux pas savoir, encore une fois notre conversation va être brève, que vous ayez capté un égrégore lié à ce lieu. Ce qui est quand même très frappant, c'est que les gens qui partagent le même lit, qui ont la tête sur le même oreiller ou sur deux oreillers voisins, quand ils se réveillent et qu'ils parlent de leur rêve, ils n'ont pas fait le même rêve.
Et dans certaines circonstances, comme les vôtres, voilà, trois copains qui font le même rêve. Ça, c'est assez curieux. Vous faites ce rêve sur un endroit qui n'est pas neutre, parce que d'après ce que vous dites, moi je vous crois, parce que je ne sais que ce que vous m'avez raconté, c'est un lieu qui a un passé, puisque c'était un lieu qui était lié à des cultes. Or, les pensées, surtout les pensées collectives, finissent par créer des égrégores qui sont plus ou moins puissantes, et qu'on peut capter quelquefois. Donc ça, pour moi, ça me semblerait être l'explication la plus plausible, hein, oui. Que vous ayez capté l'esprit de ce lieu, si vous voulez. Il y a des gens qui voient les esprits des lieux en esprit normal, en conscience normale. Vous l'avez capté dans votre sommeil. Mais ça, c'est que n'est qu'une explication qui me vient comme ça à l'idée spontanément. Je ne peux pas être sûr que ce soit vrai. Ça me semble en tout cas plausible. Qu'en pensez-vous, Didier ?
La charge de ce lieu, en somme.
Exactement, oui.
Ce lieu préalablement chargé, voilà, la mémoire du lieu.
La mémoire du lieu, oui.
Merci à toi, David.
Merci.
Bonne soirée, au revoir.
Ouais.
Bien, en attendant vos appels au 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 45, une question de Enel sur le chatroom de icietmaintenant.com. En fonction de cet épisode raconté par Marie-Thérèse de Brosse tout à l'heure, de l'homme qui revient avec deux poumons sains constatés par les radiologues, peut-on émettre l'hypothèse que les E.T., les extraterrestres, ont la clé de l'immortalité ? Voilà la question posée.
D'abord, Enel, c'est extraordinaire de s'appeler Enel quand on connaît l'autre grand Enel. Bon, alors d'abord, il faut, je précise quelque chose, que dans le dossier des abductions, les cas de guérison sont extraordinaires. Ils sont tellement forts que récemment, un ami qui lui-même a eu des expériences d'enlèvement, voyant que sa sœur avait un cancer, malheureusement, elle en est morte, voulait absolument que je le mette en rapport avec certains abductés qui ont le don de guérir. Bon, ils ont le don de guérir, ça marche ou ça ne marche pas. Mais j'ai au moins 18 cas authentifiés de guérison impossible, médicalement parlant, après ce que j'appelle une expérience d'enlèvement. Moi, j'ai toujours un petit peu de scrupule à parler d'enlèvement tout court. Bon. Alors, savoir comment est-ce que la guérison joue. Il faut également savoir que nous avons en nous des possibilités d'auto-guérison dont très souvent nous ne savons pas jouer. Quand on va voir un guérisseur, la plupart du temps, si ce n'est pas dans 300% des cas, ce n'est pas le guérisseur qui nous guérit, et les grands guérisseurs le reconnaissent, c'est que le guérisseur catalyse nos possibilités d'auto-guérison dont nous ne savons pas nous servir. Et j'en prendrai pour exemple un sujet psy extraordinaire dont on ne parle plus maintenant, qui s'appelle Matthew Manning. Matthew Manning, je ne sais pas si vous voyez qui était ce garçon, qui était poursuivi par des phénomènes de poltergeist absolument effrayants, renvoyé de tous ses collèges, parce que régulièrement, la nuit, il était jeté hors de son lit avec son matelas, les matelas de ses copains étaient jetés hors de son lit, il ne pouvait pas passer devant une armoire sans toucher l'armoire, tous les contenus des armoires se renversent par terre. Enfin, il avait des phénomènes très violents qui paniquaient effectivement ses camarades de classe. Même chose quand il arrivait dans un réfectoire, c'était la danse des assiettes sur les tables, etc. Il se faisait régulièrement renvoyer jusqu'au moment où il est tombé sur un proviseur très intelligent, et qui était un petit peu ouvert au phénomène de parapsychologie, qui lui a dit qu'il faudrait trouver un moyen de canaliser cette énergie psychique qui s'exprime chez vous sous forme de poltergeist, et il lui avait suggéré de faire du dessin automatique. Et Matthew s'est avéré être, n'ayez pas peur, je vais revenir aux histoires de guérison, hein. Matthew s'est avéré être un prodigieux dessinateur. Il faisait des Dürer, des Birdsley absolument extraordinaires. On a étudié très précisément ces dessins de Dürer, qui étaient signés Dürer d'ailleurs. Les détails des courtes pointes, des tissus d'ameublement étaient totalement exacts et Matthew n'était pas du tout calé ou érudit. Le directeur de la Tate Gallery, quand il a vu certains de dessins dans le style impressionniste de Matthew, a dit, mais moi, on me les aurait soumis, je les aurais authentifiés. Bon.
Excusez-moi, uniquement décédés, les peintres copiés ?
Uniquement les décédés, oui. Et il n'avait pas de talent personnel, mais pendant qu'il faisait du dessin médiumnique, il n'a plus eu, c'est comme ça qu'il a réglé ce phénomène de poltergeist. Et puis il s'est dit, je pourrais peut-être utiliser mes dons autrement, parce qu'évidemment, il avait toute la cohorte des faux parapsychologues, des mauvais journalistes qui lui demandaient toujours de faire des prodiges. Et bah, quand vous êtes un peu intelligent, un peu bien, vous n'avez pas envie de faire le cirque en permanence. Alors, il s'est intéressé au phénomène de guérison et il a commencé à guérir.
Radio ici et maintenant. 95.2. J'arrête quand je veux.
Et oui, la suite à demain avec Marie-Thérèse Dobrost, 15h à 16h dimanche.
Bonjour. Comme tous les jours, de 17h30 à 19h, le magazine Santé Spiritualité. Jusqu'à 19h, nous sommes en compagnie de François Michalon et d'un invité surprise. Nous en dirons un petit peu plus tout à l'heure. François Michalon est le fondateur de la société Aladdin. Bonjour François.
Bonjour, bonjour à tous.
Tu vas bien ?
Excessivement bien, un peu chaud peut-être dans le studio.
Ah oui, c'est vrai.
Mais on ne va pas s'en plaindre vu le climat qu'il fait à l'extérieur, donc tout va bien.
Mais compte tenu de l'invité que nous avons, que nous a amené, la chaleur, là ça va lui rappeler.
Ah oui, c'est sûr, on en parlera un peu plus tard. Ça n'a pas été